Bonjour, bienvenue à la table ronde consacrée à Jean Rey. Pour en parler à la table métallique avec l'aimant de la protection iPad, c'est quand même un grand moment. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Huftier, qui est enseignant à l'université de Valenciennes, co-responsable de l'amicale Jean Rey, qui fait un travail assez remarquable de mémoire, et puis pour retracer vraiment toute la carrière de Jean Rey et mettre au point la biographie, et surtout la bibliographie définitive, on va dire. Vous avez aussi commis quelques romans. Et puis, surtout, vous... Ah oui ? Non, pas de roman ? Oh, pardon, excuse-moi. Oui, pardon, ouvrage sur la littérature fantastique, pardon, comme les frontières du fantastique, etc. Excusez-moi. Et puis surtout, bon, vous avez entrepris la réédition de l'œuvre complète de Jean Rey, qui devrait s'achever à l'automne 2018, normalement, et dont les deux premiers volumes sont parus récemment, commencé par les contes du whisky. François Angelier, donc journaliste, collaborateur du monde des livres, on verra plus tard pour la sentence. Magazine littéraire, l'Obs évidemment, producteur sur France Culture de l'émission Mauvais Genre, dédié au polar fantastique, érotisme, enfin que des sujets passionnants. Et alors là, auteur effectivement d'un roman, Le Templier, aux éditions du Masque. Xavier Mauméjean, diplômé en philosophie et sciences des religions, éditeur, écrivain, essayiste et membre du collège de pataphysique. Et Jean-Daniel Breck, traducteur depuis une trentaine d'années à peu près, plusieurs fois, deux fois couronné par le Grand Prix de l'Imaginaire, voilà. Collaborateur à la revue Galaxy ainsi que Bifrost. Alors, concernant Jean Rey, pour faire un petit rappel biographique, bon, les dates 1887-1964, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de... peut-être de plus marquant de Jean Rey, si ce n'est qu'il a un style quand même très unique. Bon, on peut toujours évidemment lui trouver quelques parents, mais néanmoins, il semblerait qu'il soit unique en son genre. Et ça ne lui a pas forcément toujours servi, puisque finalement, comme en plus il a multiplié le nombre de pseudonymes, on s'est retrouvé avec une œuvre extrêmement large, très importante et qui n'a pas toujours eu les honneurs de la reconnaissance. Finalement, celle-là a été assez tardive et surtout qui a été finalement assez peu éditée ou rééditée, sauf justement alors avec ce projet d'envergure. Quand même, pour parler un petit peu de chiffres, Jean Rey, c'est à peu près 1500 contes, nouvelles et romans, dont les deux tiers en néerlandais, faut-il préciser. Et puis, alors, il y a quand même pratiquement 5000 reportages également, des poèmes, des critiques de livres, de films, etc. On reviendra d'ailleurs sur ce qui a été adapté au cinéma. Et curieusement, en fait, il n'y a pas tant de matériel qui a été utilisé pour le cinéma. Par contre, alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il a travaillé sur des médias qui sont pas forcément très classique pour un écrivain. Notamment, il a travaillé pour de la chorégraphie, à savoir l'adaptation de La Bague en 64 au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles. Alors, je me tourne tout de suite vers Arnaud Huftier concernant cette formidable réédition, puisque finalement, on connaissait principalement les livres chez Marabout, et puis ce qu'avait entrepris Néo dans les années 80, notamment l'intégrale de Harry Dickson. Comment ça s'est passé exactement pour récupérer les textes, c'est-à-dire dans leur intégralité, savoir ce qu'il y avait à modifier, ceux qui ne sont pas traduits, enfin en français j'entends, comment ça se passe exactement ?
Donc repartir un peu sur cette présentation et tout simplement préciser que quand même Jean Rey a bénéficié aussi d'une certaine reconnaissance en 1925. Avec son premier recueil, Les Contes du Whisky.
Voilà, la première parution.
Il a bénéficié, bon, après, il a fait de la prison pour du trafic.
1926-1929.
Et il a eu une deuxième période de reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale, de 42 à 45, et après, soutenu par des critiques pas très recommandables, donc oublié aussi. Pourquoi je dis ça ? Parce que les textes, après, il est redécouvert par Marabout dans les années 60. Et Marabout va retravailler les textes. Donc ne pas reprendre obligatoirement l'édition originale des Contes du Whisky, qui est aussi marquée par son époque, avec un projet intéressant, où il y a des formes d'antisémitisme, mais qui sont l'antisémitisme des personnages, hein, pas de genré, et puis reprendre les textes des années 40 et en les retravaillant, en coupant certaines phrases, etc. Donc l'intérêt, c'était quand même de rééditer actuellement Jean Rey, c'était de repartir aux éditions, enfin de reprendre pour base les éditions originales. Donc l'entreprise Alma est véritablement neuve de ce côté-là. Les Contes du Whisky de 1925, le premier volume qui a été publié par Alma, n'a jamais été réédité depuis 1925. La version Marabout, la version donc Néo, qui reprend la version Marabout, est une version expurgée.
Il y avait aussi, avant Marabout, je crois, une tentative de pseudo-intégrale par Robert Laffont.
C'est en même temps.
C'est le même triturage sur les textes.
C'est ça. Tous les textes, avec Saint-Judas de la Nuit, un roman inédit aussi, mais tous les textes, parce qu'il est présenté par Marabout comme un écrivain populaire, donc ce qui compte avant tout, c'est l'histoire, et on altère un petit peu le style si particulier de Jean Rey, donc que vous avez mentionné. Donc avec non pas des belgicismes, mais tout ce qui peut être aussi des mots désuets, on estime tout simplement que le public dans les années 60 n'est plus en mesure de lire, donc on change certains mots de Jean Rey, quoi. Et ce qui fait quand même tout le charme aussi et toute la particularité de l'écriture de Jean Rey. Donc j'insiste sur ça, hein, l'écriture, l'édition Alma est véritablement neuve de ce côté-là.
D'accord. Oui, c'est vrai que le style, enfin quand on lit Jean Rey pour la première fois, on a souvent le sentiment de ne pas pouvoir dater exactement les écrits. Ça pourrait très bien être daté de la fin du 19e comme du début du 20e. Il y a une espèce de non-temporalité dans le style qui est très surprenante. Alors, pour revenir sur les textes, effectivement, il y avait eu le problème d'antisémitisme, non pas de Jean Rey, hein, ça je précise bien, parce que, bon, a priori, il n'avait pas ce défaut, mais il l'utilisait comme ressort dramatique pour effectivement les situations et les personnages. J'ai lu, j'aimerais quand même avoir pris une précision, que dans la nouvelle Le Crocodile, il y aurait une phrase qui aurait été enlevée.
Oui. Vous me voyez venir. C'est carrément deux paragraphes. Hein.
Voilà. Concernant le fait que Jean Rey fustige Paul Bourget.
Paul Bourget.
Bon, on peut le comprendre, hein, notez bien, mais... Bourget n'était pas tout à fait un progressiste. Il était aussi quand même un homme de son temps, mais enfin néanmoins un peu en retard, quand même monarchiste, vraiment radicalement anti-républicain, anti-Dreyfusard, mais lui aussi pas tant antisémite que cela, parce que finalement, par rapport à l'époque, il a nagé au-dessus de ce défaut. Pourquoi avoir enlevé ces...
Je pense que Marabout l'a enlevé tout simplement parce que dans les années 60, Paul Bourget est devenu aussi inconnu. Donc la phrase, je crois, si mes souvenirs sont bons, est complètement absconse.
Qui écrit les choses les plus fausses du monde.
L'écrivain français qui écrit les choses les plus fausses du monde, et on supprime simplement Paul Bourget qui écrit les choses les plus fausses du monde. Mais s'il y avait Paul Bourget, c'est pour ça que la réédition est importante, s'il y avait Paul Bourget, tout est lié avec l'antisémitisme. Hein. C'est-à-dire que Jean Rey détestait une chose, c'était le roman psychologique. Donc il détestait aussi André Gide, Paul Bourget, tous les représentants du roman psychologique, tout simplement parce que pour lui, c'était faux. C'est-à-dire que des paysans, même des marins qui parlent avec des imparfaits du subjonctif, pour lui, c'est faux. Donc c'est-à-dire que le projet des Contes du Whisky, c'est justement cette oralité, ces onomatopées, tout ce qui est tentative mimologique aussi, une écriture qui est très fine, très difficile à faire, un équilibre, certaines nouvelles où il n'y a aucun connecteur. Donc c'est simplement mettre un micro et écouter les personnages qui parlent et en faire une histoire. Et pour ça, lui, c'est vrai. Donc quand il écrit, quand il fait dire par un personnage comme Paul Bourget qui écrit les choses les plus fausses du monde, ça explique aussi sa propre démarche créatrice. Donc quand on le supprime, eh bien, évidemment, on loupe tout le contexte et Et l'antisémitisme est lié à ça, puisque les personnages, dont les marins sont viscéralement, et comme il y a le corps qui est toujours là, sont viscéralement antisémites. Mmh. Donc s'il il entend peindre cet univers, il le peint avec l'antisémitisme.
Oui, oui, l'oralité dont vous parlez est assez importante, parce que, et c'est là où je suis souvent surpris qu'il y ait eu finalement aussi peu d'adaptations au cinéma, c'est qu'il n'y a pas de description psychologique, tout passe pratiquement que par du dialogue, mais par contre, ils sont extrêmement travaillés. En gros, il n'y a plus qu'à mettre une caméra. Je fais une caricature, mais bon, est-ce que quelqu'un a envie de rebondir justement sur ce style de dialogue,
le style gens
particulier
adapté,
de Jean Rey?
Direct pour la radio, les cons du whisky.
Bah, en fait, la question de savoir si Jean Rey est antisémite elle est, ou pas, elle est un peu, c'est comme si vous demandiez si l'auteur de Winnie l'ourson est un ours. Ça n'a strictement aucun intérêt. Il y a des femmes dans les romans de Stephen King. On ne se demande pas si les femmes, tous les jours perdus du mois... C'est un faux procès. Quant à Paul Bourget, on s'en fiche carrément. Qu'il y ait une phrase ou pas de Paul Bourget, même s'il n'y a pas la phrase maintenant de Paul Bourget, c'est peut-être mieux. La question, en tout cas pour moi, est de savoir quel intérêt a publié Jean Rey en 2016. Est-ce que c'est pour combler un rayon de bibliothèque? Non. Est-ce que c'est pour avoir des textes disponibles tronqués, mais qui feront la joie des collectionneurs, les marabouts ou les néos? Non, ils sont disponibles assez facilement. La question est de savoir si les textes se tiennent. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, les textes de Jean Rey se tiennent? Ils se tiennent. Je pense que les contes du whisky l'a montré. Alors effectivement, ça a été adapté en 2 heures à France Culture. Et comme vous le disiez... Tout est porté par la voix et ça fonctionne parfaitement parce que justement il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de d'arc narratif trop présent, c'est la voix, les personnages qui parlent, donc ça se tient. Mais est-ce que ça se tient pour un lecteur? Oui, il y a encore de très belles surprises, par exemple dans Le Carrousel des Maléfices qui contient de purs chefs-d'œuvre, ou dans les derniers contes de Canterbury. Par exemple, La Terreur Rose, qui est un texte magnifique. Et le problème me paraît simple, c'était de savoir qu'est-ce qui pouvait justifier cette initiative éditoriale. Et je pense que François Angelier, qui est aussi l'un des acteurs importants de ce renouveau genré, pourrait nous parler justement de la qualité de la beauté littéraire de Jean Rey aujourd'hui, et non pas par rapport à un historique éditorial ou ce qui est figé dans une bibliothèque municipale.
Oui, moi le problème c'est que j'ai un rapport à Jean Rey qui est à la limite du pathologique, puisque j'ai découvert la littérature et la capacité, la puissance de l'imaginaire littéraire avec Marabout. Je l'ai lu quasiment quand ça sortait, dans les années 60. Et véritablement, ça a été pour moi la découverte de ce que la littérature pouvait générer comme sortilège, rêverie, cauchemar, hallucination. J'ai lu, mais je ne sais pas combien de dizaines de fois, les 16 tomes Marabout. Je suis un baronian boy. Et les autres, parce que c'est le marabout, c'était une maladie. On attrapait la maladie de la maraboutite aiguë. On commençait par Jean Rey. Après, il y avait Thomas Owen, Gueldereau, Marcel Brion, Alfred Koubin, et tout ça y allait. Et donc, j'ai toujours gardé pour Jean Rey à la fois une fascination quasi d'enfant, un regard presque de gamin. Et puis après, le temps passant, j'ai continué à lire Jean Rey. C'est-à-dire que ça n'était pas une sorte d'émotion un peu de type Bob Moran. On lit ça, on découvre l'aventure, l'ombre jaune, et puis après on passe à autre chose. J'ai continué à lire Jean Rey, et avec le temps, je ne le lisais pas pour les mêmes raisons. Au départ, je lisais parce qu'effectivement, j'étais fasciné par les coups de théâtre, les vieilles mercières qui se transformaient en goules, le clerc de notaire qui brusquement devenait l'incarnation du diable. Ce petit monde de la province qui était le mien, qui basculait dans l'horreur et le fantastique, alors évidemment, là, ça tétanisait. Bon, après, c'est la question de la langue qui est arrivée, puisqu'effectivement... quand je me suis intéressé aux surréalistes et à la littérature telle qu'elle, la langue de Jean Rey était toujours quelque chose de fabuleux, puisque c'est vraiment une des langues les plus poétiques. D'abord, c'est quelqu'un qui a inventé une langue pour traduire son univers. Ça fait partie des grands, c'est pas quelqu'un qui se coulait dans une pratique linguistique et littéraire déjà inaugurée avant lui. C'est quelqu'un qui a inventé sa langue pour raconter ce qu'il avait à dire, d'abord. Et puis, je trouvais que c'était fabuleux. Enfin, on est entre, effectivement, on est entre Huysmans et Maigret. Enfin, j'en sais rien. On est à la fois dans un univers de petite bourgeoisie, enfin, de très provinciale, où il se passe tellement rien que ça devient bizarre. C'est ça que je trouve fascinant chez Jean Rey. Il se passe à ce point rien dans la vie de tous ces gens que c'est suspect. Il doit bien, ça cache quelque, la banalité à ce point, ça cache quelque chose. Et après, arrive des trucs. Donc, à chaque moment, moi, j'ai redit que j'ai eu mon Jean Rey, la poésie de la langue, et puis après, bon, quand j'ai mieux connu le fantastique, la manière dont il se posait, parce que c'est une des grandes raisons pour lesquelles il faut qu'il soit bien présent, de bonne qualité d'édition, sur les rayons des libraires, c'est qu'avec Hoffman, Nerval, Lovecraft, Borges, c'est un des passages obligés du fantastique. Je veux dire, le fantastique sans Jean Rey, bon, il manque quelque chose. Là, il y a un temps qui manque dans la sarabande. Donc ça c'est important. Et effectivement, la langue aujourd'hui, elle est un mélange curieux d'argot précieux. Enfin, je veux dire, on est à la fois chez Jean Lorrain et chez Macorlan, chez Carco et chez Elémir Bourges, dans une espèce de chose très, 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 un folklore imaginaire tout à fait singulier. Et ce qui fait que c'est pain béni ou pain maudit, je ne sais pas, pour la radio, puisque vous prenez un comédien, un grand comédien, et vous lui balancez du Jean Rey. Il y a une archive qu'on rediffuse de temps en temps à l'INA, c'est La Ruine Ténébreuse, lue par Michel Bouquet. C'est un truc totalement glaçant, parce que Bouquet, c'est quand même pas quelqu'un qui met le paquet, c'est pas bon. Et c'est fabuleux, je veux dire, il suit le texte et c'est totalement inquiétant. Je veux dire. Donc, effectivement, pour tout un tas de raisons, il y a encore le rendez-vous raté, avec le cinéma, mais ça, tout est possible.
Jean-Daniel Brecq.
Pour rebondir sur le cinéma, il y a quand même... Le film qui s'appelait d'abord La Grande Frousse et qui est devenu La Cité de la
Voilà, ça c'est le moment fort. Voilà. Après.
Et dans le scénariste n'est autre que Gérard Klein qui est présent ici. Et pour rester dans le visuel, pendant que je vous écoutais, je regardais défiler les couvertures que vous voyez sur l'écran. Bon, il a quand même eu beaucoup de chance dans le choix de ses illustrateurs. Nicolet a fait un travail formidable. Mais justement, je trouve que le choix de Foster pour illustrer cette édition rejoint tout à fait ce que disait François Angelier. Foster, on se souvient des bandes dessinées des années 1980, etc., publiées dans Fluidgacial, c'est exactement ça. Le banal, le plus médiocre, le plus gris, qui débouche brusquement sur la monstruosité. Et moi, j'ai à peu près eu le même parcours que... On se tutoie, on est copains. Hein, le parcours que toi. Sauf que moi, je me suis un peu détaché de genre, et donc là, je redécouvre. C'est pas facile, parce qu'effectivement, j'avais gardé cette image, comme tu dis, comme Bob Moran, c'est quelque chose que j'ai lu quand j'étais gamin, je n'avais vu que la surface des choses. Et là, maintenant, je redécouvre la profondeur. Et quelle langue ! Effectivement, il y a des mots absolument à tomber par terre. Et surtout, ce que j'ai remarqué aussi, puisque bon, je débute dans mes lectures, donc j'ai lu Les Contes du Whisky, et ce matin même, je viens de finir La Cité de l'Indicible Peur, c'est quelqu'un qui savait choisir son rythme, ses effets, en fonction de l'histoire. Ouais. On a souligné l'oralité des contes du whisky, mais La Cité de l'Indicible Peur, c'est calme, c'est posé. J'ai presque l'impression qu'il me raconte son histoire, puis de temps en temps, il s'arrête pour tirer sur sa bouffarde, ouais, et il reprend. Donc, il y a un rythme un peu lancinant, et puis soudain, ça se précipite, ça se bouscule, il se passe des choses monstrueuses, et hop, on redevient au calme. C'est un maître de la narration.
Ah, tout à fait.
Oui. Je pense que l'univers de Jean Rey, je ne parle pas d'Harry Dixon, je parle de la grande majorité de ses contes, ça se situe dans ce que le philosophe Hegel appelait le dimanche de la vie, c'est-à-dire l'idéal bourgeois d'un repas du dimanche interminable et de la promenade digestive après. Et c'est le pas de côté, le dérapage durant la promenade qui fait Jean Rey. Pour moi, il y a une très, très belle nouvelle de Jean Rey dans Le Carrousel des Maléfices, c'est Tête de Lune, où justement, il y a une balade comme ça, familiale, après un repas interminable, et il y a une petite fille très pâle de peau, avec une tête lunaire, qui en apparence semble simple d'esprit. et le garçon qui la voit, qui est mal à l'aise, plus tard devient marin, etc., et revoit ce qui semble être la même petite fille, mais c'est pas possible, c'est des années après, et il y a tout, parce que il y a toute cette Belgique, il y a le canal, il y a l'écluse, il y a le repas qui vous laisse congestionner à 17h, on finit à peine le dessert. Et c'est cette espèce d'angoisse bourgeoise qui fait la beauté de certains contes. Et à côté de ça, il y a tout ce que François a évoqué, il y a toute une relecture qui est assez unique quand même de la mythologie, des figures... légendaires qui sont propres à lui et qui sont en même temps très belges et qui fait que c'est une expérience unique dans le fantastique. Et j'ajouterais enfin que j'aurais peut-être passé la parole à Arnaud Huffier, mais il y a des textes inédits, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une réimpression avec de nouvelles couvertures de Foster qui sont très bien, mais il y a du matériau inédit ou en tout cas peu accessible.
Oui, revenir un peu aussi sur Tête de Lune, hein, qui est vraiment un des textes marquants et tout à fait emblématique de Jean Rey. Tu as tout à fait raison, hein, puisque donc, le repas revient après. Donc le personnage est enfermé, c'est-à-dire qu'il y a toute une vie. Ça part d'un repas dominical et il y a toute une vie qui prend l'espace de 3 ou 4 pages. Et on revient au repas qui ferme la nouvelle. Quoi. Et c'est en lien avec le Grand Nocturne. Hein. C'est tout à fait cette temporalité qui est une temporalité éclatée et puis... qui se referme sur elle-même. Sur les textes inédits, oui, mais avec un choix. Mmh. Avec un choix, parce que ça permet de revenir sur le début. Quelqu'un qui écrit 6500 textes peut difficilement, à mon sens, écrire 6500 textes de la même eau. Donc il y a à peu près, on va dire, 500 textes qui sont vraiment, qui reprennent cette mythologie, ou en tout cas cette écriture propre que Jean Rey essaie d'imposer. En permanence. Donc les inédits dans l'édition Alma portent écho à ses recueils, on va dire, principaux et ses romans donc majeurs. Il a écrit à peu près 20 de romans aussi, qui sont des romans d'aventure pour un public familial ou pour la jeunesse, qui portent écho à certaines mythologies, le jeu du regard, etc., qui renvoie à Malpertuis, mais qui n'ont pas la même densité, qui n'ont pas la même écriture, la même force d'écriture aussi. Ce même ton posé qui en même temps peut enchaîner avec des accélérés comme dans La cité d'indicible peur, alors que ces romans d'aventure sont moins bien maîtrisés ou en tout cas n'ont pas le même rythme et pas la même recherche de mots. Quoi. Donc au niveau de l'édition Alma, il y a une sélection de ces textes qui portent écho pour vraiment montrer qu'il y avait 500 textes où Jean Rey essaie d'imposer, en tout cas c'est travaillé. Et là ça permet d'aller à l'encontre de l'idée... ou de la légende de dire que c'était un écrivain à l'instinct qui écrivait simplement pour manger et qui ne se relisait jamais. Je pense que ces textes, en tout cas ces textes majeurs, sont terriblement travaillés. Les manuscrits, donc c'est pour ça que je reviens aussi sur Tête de Lune. Tête de Lune, il y a un manuscrit, donc j'ai le manuscrit. Il y a 4 versions. 4 versions. Donc c'est-à-dire que pour un texte qui fait quand même 5 ou 6 pages, il revient à chaque fois, ne serait-ce que la comptine qui est essentielle dans Tête de Lune. La première version, c'est la comptine du Grand Nocturne. Donc, c'est-à-dire qu'il impose aussi cet univers qui se renvoie à lui-même, qui se referme, où il y a tout ce jeu avec les personnages, encore une fois, enfermés. Et ça, c'est véritablement cette recherche de mots aussi, cette recherche de mots rares. Tous les manuscrits le montrent. C'est-à-dire qu'il y a ce premier jet aussi, et à chaque fois, essayer de montrer un peu comme des perles, ou en tout cas des mots qui sont pris comme des objets. C'est-à-dire que la cité de l'indicible peur, on a fait aussi, quelqu'un s'est amusé à faire un dictionnaire des mots désuets, des mots obsolètes ou des mots rares de la cité de l'indicible peur. Et je défie quiconque ici de prendre ce dictionnaire et de vous donner certains mots et de donner la définition, c'est absolument impossible. Mais par contre, quand on lit la cité de l'indicible peur, tout est compréhensible. Et ça, c'est un équilibre qui est absolument, pour atteindre cet équilibre, c'est vraiment un exercice de style qui est assez prodigieux.
Une phrase qui est célèbre et qui revient comme une sorte de battement de cloche dans les contes de Jean Rey, c'est « Cela sentait la rogomme et le remugle de Jusant ». Alors la rogomme, déjà, bonjour, le remugle, le Jusant, bon, mais le remugle, vous voyez, à chaque fois, on va chercher le vocable rare qui est à la fois intriguant, parce que le fait de tomber sur un mot dont le sens est opaque Déjà, ça crée, je veux dire, ça renforce le fantastique. Et en plus de ça, quand il y a une vertu poétique, alors ça devient carrément ensorcelant. Donc, cela sentait la rogomme et le remugle de Jusan. Quand j'étais gamin, vous imaginez, hein, c'est quand on sentait le Spirou, la rogomme et le remugle de Jusan. Et ça m'excitait. C'est qu'on est excité parce qu'on ne comprend pas. Vieux truc.
C'est la musicalité. Mais de toute façon, il y a. On revient aussi sur la problématique des influences qu'a pu subir Jean Rey. Alors, on a souvent parlé de Lovecraft, mais c'est probablement douteux parce que Lovecraft était très peu connu au début de Jean Rey. Donc, je ne vois pas trop comment il aurait eu un contact avec, avec les écrits de Lovecraft. On a parlé évidemment de Poe, bon, pourquoi pas. Selon vous, parce que bon, il n'y a quand même pas de génération spontanée en art, selon vous, quelles seraient les influences principales de Jean Rey qui pourraient permettre de comprendre son style unique, mais quand même qui issu d'une transformation, d'une digestion d'influences.
Peut-être revenir sur Lovecraft avant pour aussi s'en débarrasser.
Oui, faisons ça.
Jean Rey a lu Lovecraft, je crois, en 1955, à l'époque où il est publié par De Noël. Donc là, il le dit hein, très clairement, je viens de lire Lovecraft. Donc on ne peut pas prétendre qu'il y ait une influence de Lovecraft. Sur le tard,
hein. Ils ont été publiés ensemble en présence du futur.
Alors, et par contre, Lovecraft, puisque j'avais commis un travail universitaire il y a une vingtaine d'années sur Jean Rey et Lovecraft, et à l'époque, on n'avait pas Internet, c'était beaucoup plus compliqué pour trouver les sources. Donc j'avais quand même mis quelques années à retrouver toute la correspondance de Lovecraft. Lovecraft a lu Jean Rey. Et ça, il en dit une chose. Il dit deux mots. Not bad. C'est tout. Donc c'était à peu près 3 ans de recherche pour trouver deux mots. Bon, voilà. Maintenant, ça peut aller plus vite sur Internet, simplement parce que Jean Rey a été publié dans Weird Tales, quoi. Et donc Lovecraft commentait tous les numéros de Weird Tales. Donc il parle d'une nouvelle de Jean Rey. Il dit ces deux mots simplement. Donc ça n'a pas, il y a eu aucune influence aussi de Jean Rey sur Lovecraft, même si Lovecraft l'a lu quand même assez tôt.
On pourrait faire un bandeau commercial, Not Bad de Lovecraft.
On voit le professionnel tout de suite. Qui,
Comment faire de l'argent? Bon, donc en tout cas, l'affaire est réglée.
L'affaire est réglée. Donc l'influence de Poe, ça se retrouve sur certains textes au début, oui, effectivement, sur certains textes, mais plutôt les, on va dire d'un point de vue thématique, il n'y a pas le même aspect morbide. Et son influence, c'est quand même, enfin en tout cas les influences, évidemment, il y a l'univers de Dickens, mais il y a aussi beaucoup le roman d'aventure français, même Pierre Benoît, c'est pour ça, Carco aussi. C'est-à-dire qu'avant d'écrire Les Contes du Whisky, Jean Rey a sa revue, hein, donc l'ami du livre. Et à l'époque, il fait à peu près, en l'espace de 2 ans, il fait 450 critiques de livres. Il fait 450 critiques de livres, donc c'est à peu près tout. Même s'il est influencé aussi, ou en tout cas s'il reconnaît l'influence d'Ewers, de Maurice Renard, c'est tout ce qui est publié à l'époque. Et ce qui est très amusant, c'est quand même que ce qu'il lit à l'époque, quand il en fait la critique, il le réinvente. Donc il y a aussi un roman que je trouve assez, quand même, un roman de Jeanne Galzy, qui est La Petite Ville, enfin, je ne me souviens plus du titre aussi du roman, et quand il le décrit, il en fait la critique, c'est exactement le scénario de La Cité d'Indicible Peur, qu'il va écrire 15 ans plus tard. Donc là aussi, il y a quelques années, j'ai mis un peu de temps à trouver le roman de Jeanne Galzy, et ça n'a rien à voir avec ce que Jean Rey en dit. Donc c'est-à-dire qu'il lit un roman, qui est aussi un roman qui est basé sur le dimanche, avec tout le monde s'épie, etc., mais qui n'a pas du tout la même densité de Jean Rey, que La Cité de l'Indicible Peur, et il garde ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette influence de Jeanne Galzy, mais qui est la Jeanne Galzy, ou en tout cas le roman que Jean Rey peut imaginer à partir de ça. Mm-hmm. Donc je crois que ces influences, ça va être principalement dans les années 25, quand il a ce début de carrière, où il va de tous les côtés, puisqu'il n'écrit pas du fantastique, en fait, au départ. Il commence à écrire du fantastique relativement tardivement. Hein. 1919, Les Contes du Whisky, il a 38 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il écrit du fantastique. Et quand il commence à écrire des récits qui sont plutôt des récits de déformation, d'anamorphose, enfin de remise en cause du monde, ou en tout cas de la réalité, plus par les effets du whisky. Mais sur Les Contes du Whisky, il n'y a pas de surnaturel en tant que tel. C'est simplement, véritablement, des déformations. Si on veut vraiment dire c'est du fantastique, il y a à peu près 5 ou 6 nouvelles des Contes du Whisky qui renvoient. Donc, c'est cette déformation du monde qui, après, va donner autre chose quand il y aura ces années qui sont quand même des années aussi importantes, ces 3 années de prison. ces 3 années de prison où, finalement, quand il écrit La ruelle ténébreuse, le psautier de Mayence, il écrit ses grands textes en prison. Et il y a une densité ou une dimension qu'on n'avait pas auparavant, c'est-à-dire que les contes du whisky, c'est quelque chose de choral. Donc ce sont des personnages qui s'expriment, ce sont les personnages qui, le dialogue qui fait les dialogues qui font l'histoire. Et ce qui change après, avec cette écriture qui est parfois beaucoup plus longue, c'est que les personnages aussi sont seuls. C'est-à-dire que Tête de Lune, enfin, ce qui est vraiment prenant dans Tête de Lune, c'est que la fin de la nouvelle, c'est quand même le personnage qui est enfermé, qui parle de son enfermement. Et ça, on ne l'avait pas dans les contes du whisky, c'était à chaque fois, enfin, donc, c'était véritablement choral, quoi. Donc il y a cette influence qui est vraiment éparse parce qu'il fait feu de tout bois au niveau de ses lectures. Il n'amalgame pas, mais il imagine à partir de ce qu'il pourrait compléter. Il y a ce style qui, justement, emprunte en même temps à Carco et en même temps à tout ce qui va être Huysmans. Donc il en fait cet assemblage. Et puis ces années de prison où, finalement, il y a ce personnage où c'est cette impossibilité d'être unique, cette impossibilité de réussir à parler, de s'imposer. Donc ce style aussi se retrouve au niveau de... la richesse aussi de l'écriture de genre, c'est cette alliance aussi de clichés, enfin d'écriture blanche. Donc c'est-à-dire d'avoir ce monde qui progresse, où tout est identique. Et ce monde est heurté parce qu'il y a toujours ces métaphores qui sont tout à fait étonnantes et qui veulent dire, enfin, là, au niveau de l'écriture, la réalité est déjà déformée. Et ça, au milieu, c'est le personnage qui est seul et qui se dit, comment suis-je pris dans ce monde ? Et finalement, cet enfermement arrive à la fin et s'impose. Et c'est ça qui est véritablement avec cette densité dramatique. Parce qu'il y a une densité dramatique au-delà du fantastique dans les récits de genre qui est vraiment assez prenante.
Oui, il y a quelque chose aussi. Il a eu du mal à rebondir après, justement, à partir d'après 29, quand il sort de prison. Et pourtant, là où d'autres, enfin certains auraient pu changer de style, tenter de trouver une manière commerciale de placer leur texte, lui, finalement. Va effectivement chercher des domaines, des médias différents. Par exemple, dans les années 30, il travaille aussi en tant que scénariste pour une brève série de BD. Mais finalement, son style ne change pas réellement, radicalement. Il reste parfaitement fidèle à lui-même. C'est assez surprenant.
Oui, il en rajoute, au contraire. Il va encore plus loin. L'épreuve de la prison, pour citer Dick, c'est un peu un désinhibiteur, comme il disait, de son expérience mystique. Brusquement, au contraire, il en rajoute après. Et les grands chefs-d'œuvre canoniques de Jean Rey sortent pendant l'occupation, quand même. Toute la Malpertuis, c'est 30, 40, 43. C'est vrai que les choses viennent quand même peu à peu. Les choses se construisent peu à peu, mais il n'y a pas de rupture de rupture de ton dans son écriture. Au contraire, il y a un approfondissement d'une esthétique et d'une stratégie d'écriture qui est présente dès le départ et qui s'accroît jusqu'à la fin, je crois.
Enfin, il y a quand même un changement, enfin, de style. Hein. Enfin, donc, l'aspect choral des contes du whisky et les grandes nouvelles après écrites en prison. Hein. Donc il y a ce rythme aussi qui est véritablement beaucoup plus fort. Hein.
Oui, et l'expérimentation.
Malpertuis, il commence à l'écrire en prison. Donc il le terminera 10 ans, enfin les manuscrits le montrent, il le terminera 10 ans plus tard, donc, puisque c'était son grand roman. Mais il y a cette musicalité. Parce que donc chacun a ses citations, mais je connais la citation aussi de François. Mais donc le grand recueil de Jean Rey, c'est quand même, pour moi, La Croisière des Ombres, ce qui est sorti en 1931, décembre 1931, parce que dans ce recueil figure quand même La Ruelle Ténébreuse, Le Psautier de Mayence, La Présence Horrifiante, Le Bout de la Rue, donc les grands textes de Jean Rey qui vont être repris après dans les années 42, parce que ce recueil va être un échec commercial et critique absolument cuisant. Et là, on voit vraiment que ce qui se met en place chez Jean Rey, c'est cette écriture, cette musicalité, ce rythme qui est pour moi claudélien, et en même temps un jeu à chaque fois avec les clichés. Donc c'est-à-dire ce qu'est le fantastique. Quand il y a le début de La Présence Horrifiante, qui décrire une tempête, quand Jean Rey décrit la tempête, c'est quand même... Elle est accourue de loin, du fond des mers haineuses, là où pourrissent les phoques crevés de gale et de mal mort. Elle a hué au nid 500 agonies pour assiéger notre pauvre cabaret où le whisky est aigre et le rhum épais. Donc là, il y a véritablement une musicalité. Et juste après, il y a le dialogue qui se met en place. C'est pourquoi, dit Holmer, faut-il toujours mettre une tempête pour raconter une histoire effroyable ? Donc il y a ces deux choses qui sont importantes. C'est-à-dire cette musicalité, c'est quelque chose qui est vraiment unique, et tout de suite ce jeu avec les clichés, c'est-à-dire que vous êtes dans un recueil qui s'appelle La croisière des ombres, histoire hantée de terre et de mer, avec une nouvelle qui ouvre ça, qui s'appelle La présence horrifiante. Donc là, on sait quand même qu'on est véritablement au cœur même du fantastique.
Ça y ressemble.
Ça y ressemble. Et donc, il y a ce jeu avec une écriture qui n'est pas obligatoirement attendue dans ce type de récit, mais c'est une tempête qui ouvre le recueil, et tout de suite, on distancie les clichés tout en ayant cette écriture particulière. Et ça, c'est cet équilibre aussi qui est véritablement particulier, ce qu'on retrouve avec les clichés, les métaphores, et ce qu'on retrouve avec justement ce qui est inattendu. La présence horrifiante, qui est pour moi aussi le plus grand texte de Jean Rey, il y a un cliché aussi. La présence horrifiante, Xavier parlait de Tête de Lune, mais la présence horrifiante, c'est simplement dans une taverne, et il y a un étranger qui arrive, pour ceux qui ont lu, hein, qui vont bientôt le lire avec le volume Alma qui va être publié en novembre. Et donc il y a un personnage qui arrive tout simplement et dit elle est là, elle est là. Et finalement le personnage, tout le monde est effrayé. À la fin, on voit simplement, on entend des sons qui viennent du crâne du personnage. Et à la fin, on voit simplement 5 marques avec du sang qui coule. Et ça se termine comme ça et tout le monde part effrayé. Il n'y a aucune explication. Donc c'est-à-dire on a un récit qui est en même temps terrifiant, mais donc de l'épouvante, mais en même temps pas d'explication, pas de causalité. Donc, c'est-à-dire au lecteur à deviner ce que c'est, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune explication. Et quand on parlait de l'écriture de Jean Rey, on voit dans les dialogues, et quelqu'un, justement, c'était Fernand Verheusen qui avait fait un article contre l'écriture de Jean Rey et qui citait justement la présence horrifiante et qui parlait, mais comment peut-on écrire dans les années 1930 de tels clichés? Enfin, comment peut-on utiliser de tels clichés? Ce sont des clichés baudelairiens. Et il cite notamment dans La présence horrifiante un cliché dans les dialogues où il dit « La hantise de la grande solitude qui heurte notre crâne et tâche d'y entrer. » Ce que je viens de décrire, enfin, quand j'ai donné le résumé de la nouvelle, c'est exactement ça. « La hantise de la grande solitude qui heurte notre crâne et tâche d'y entrer. » Donc c'est-à-dire que là où c'est vraiment très très fort chez Jean Rey, c'est qu'en même temps, il utilise les clichés dans ses dialogues pour montrer que d'un point de vue thématique, ou en tout cas l'explication est là. C'est une personnification de la solitude. Et ça, c'est véritablement, quand je parlais du caractère aussi savant, du plaisir de lecture, mais de redécouverte aussi, parce que ce procédé, finalement, c'est aussi le procédé de Malpertuis. C'est à chaque fois d'avoir, à la fin de la nouvelle, de dire, mais finalement, tout était là, tout était dans le texte, et je n'ai rien vu. Et je n'ai rien vu, je reste aussi sur cette découverte des mythologies, des divinités de l'Olympe, sans avoir vu que Jean Rey montrait tout. Et donc ça, il reprendra les procédés à chaque fois. Son grand roman, Malpertuis, c'est exactement ça. C'est aveugler le lecteur, c'est vous avez tout sous les yeux, je vous donne tous les indices, et quand vous découvrez finalement l'explication, vous dites, mais comment j'ai pu me faire leurrer à ce point? Malpertuis, quand tu parlais des grandes lectures, Malpertuis, c'est quand même le seul roman que j'ai lu 2 fois d'affilée. Quoi.
Parce que
la première lecture est tellement marquante que j'ai refusé de dormir cette nuit-là pour dire, il faut que je le relise, parce que comment... Et j'ai pu me faire avoir à ce point, quoi. Enfin, pris par l'écriture.
Et puis en plus, il y a une dimension hypnotique, de toute façon.
Tout à fait, oui.
Toujours en parlant justement de la qualité du texte, mais aussi de l'esprit, et notamment de l'esprit belge, parce que bon, la Belgique, c'est pas seulement le pays du mystère, du brouillard et de ce qu'il y a derrière les instants trop calmes. Bon, parce que là, bon, tout de suite, on peut effectivement penser à Siménon et à d'autres, mais. Il y a eu quand même aussi un surréalisme belge qui a été très important. Et Jean Rey aurait parfaitement pu avoir des contacts plus forts avec le surréalisme. Ça n'a pas vraiment été le cas. Pourquoi, d'après vous?
On a affaire de sociologie littéraire, là, ça je ne sais pas. Il faut voir d'abord si les surréalistes belges étaient en Belgique. Je pense qu'ils circulaient pas mal. Et puis, affaire d'opportunité, hélas. Mais si je peux me permettre, pour moi, s'il y a une sorte d'écho plastique, pictural à Jean Rey, c'est plus le symbolisme belge. C'est plus de Gouffe de Nunc, d'Elville, c'est-à-dire ces bois, ces sous-bois un peu gris, où il y a brusquement des silhouettes, ces rues opaques. Effectivement, l'Empire de la Lumière de Magritte, célèbre tableau où toute la réalité dans la nuit, mais sauf le ciel qui est tout bleu, qui est un ciel de beau temps, éventuellement on peut y penser, mais je pense qu'il y a plutôt une influence du symbolisme belge, avec qui travaille aussi beaucoup cette idée d'une réalité hantée, d'un monde faussement sécurisant, faussement calfeutré, et qui dissimule des monstruosités. Je veux dire, c'est la grande. Et là, on retrouve effectivement Huysmans, pour citer un Hollandais de souche. On retrouve un petit peu cet univers, ou même. Je pense que le naturalisme belge, là, les Camille Lemonnier, des gens comme ça, le naturalisme, quand le naturalisme va à fond, que ce soit en peinture ou en littérature, ça débouche forcément sur le fantastique. Ça, c'est une vieille histoire qui se vérifie à chaque coup. Et Jean Rey, à mon avis, doit participer de ça. C'est-à-dire qu'une discussion dans un bistrot de marin, poussée à son maximum d'ancrage, de naturalisme, ça débouche forcément sur l'apparition du Kraken et des grandes bêtes de la nuit. Ça, c'est un procédé. Et la peinture, genre, peinture surréaliste, je ne sais pas trop. Je pense plutôt au symbolisme.
Puis aussi, ce qu'on n'a pas évoqué, mais davantage que le surréalisme belge, c'est vraiment la Belgique. Ce qui est intéressant, par exemple, et qui n'est pas anodin, c'est que pour les contes du whisky ou les contes noirs du golf, ou même les derniers contes de Canterbury, il y a une référence à l'oralité, aux contes. Enfin, il y a une tradition orale flamande qui est très forte, qui a certainement influencé Jean Rey. Puis il y a aussi des thèmes qui sont chers à pas mal de monde ici, et qui sont communs aussi à Gelderode, c'est la foire, l'étrange. Je pense que Jean Rey est extrêmement belge dans ce qui a favorisé le surréalisme belge, mais qui est en deçà même du surréalisme. D'ailleurs, le surréalisme belge est vraiment très particulier, et il demeure en plus, il est encore vivace de nos jours. Mais c'est ce fond typiquement belge, et qui passe beaucoup par l'oral, hein, l'oralité, je pense, qui a influencé Jean Rey.
Je vais me demander à Jean-Daniel par rapport, qui anime donc le Baskerville de Rivière-Blanche, par rapport au conteur anglais contemporain. Est-ce que, je ne veux pas dire, on va essayer de faire on va pas les aligner, mais si on met face à face Jean Rey avec tous les conteurs anglais sur lesquels tu travailles, qui sont à peu près souvent contemporains.
Ils sont un peu antérieurs quand même, puisque je m'intéresse davantage aux contemporains de Conan Doyle, on va dire.
Oui, d'accord. Donc,
Jean Rey a une écriture totalement unique. Je ne vois pas, sans faire d'effort de mémoire, dans le terreau que moi je cultive, quelque chose qui ressemble à ça. Même les écrivains fantastiques anglais, américains, soit ils sont déjà dans les excès que nous adorons du pulp, soit ils sont au contraire très, très sobres. Là, je suis en train en ce moment de travailler sur un recueil de W.W. Jacobs, l'auteur de La main de singe ou La patte de singe. C'est au contraire, c'est très froid, clinique, objectif. Il n'y a pas ces envolées lyriques. Ou alors c'est que j'ai pas lu les bons textes. Hein. Par contre, on trouve ça aussi dans certains écrivains qui sont proches de la décadence fin de siècle, les Yellow Book, quoi. Bon, le plus connu qui est resté dans le registre du fantastique, c'est Robert Chambers. Il y avait aussi ces envolées, mais le projet littéraire n'est pas du tout le même.
Alors, ce serait plutôt, faut chercher une résonance, ce serait le pulp américain.
Pulp américain, un mélange de pulp américain, et bien, quelqu'un comme M.P. Shill, par exemple. Chez les Anglais, quelqu'un comme Shill, qui lui était baroque, foisonnant, qui est très très peu connu en France, puisqu'on connaît que quelques nouvelles, et puis le Nuage pourpre, qui était aussi spécial. Hein. On a fait des découvertes récemment. Aujourd'hui, il sera en prison lui aussi.
Hein. Oui, il y a une critique de Jean Rey du Nuage pourpre très élogieuse. Je ne vais pas revenir sur le surréalisme belge, mais sur la caractéristique aussi belge de Jean Rey. Ce qui est important aussi à voir, c'est que non seulement il est belge, mais il est flamand. Il est flamand et bilingue. Il écrit quand même, ses premiers textes sont en néerlandais.
Les deux tiers des textes sont en néerlandais.
Après, ce qui est alimentaire, mais ses premiers textes, donc, c'est-à-dire qu'en 1903, 1907, etc., il commence, donc quand il a l'intention de faire carrière ou d'être écrivain, hein, ses premiers textes sont en néerlandais. Et il choisit le français après. Donc ça veut dire que cette capacité d'être bilingue aussi, ça crée une tension dans son écriture. non pas une insécurité linguistique qui pour moi ne peut pas exister, mais en tout cas une tension. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité de penser en deux langues, d'écrire en deux langues, d'alterner. C'est-à-dire que quand dans les années 30, il peut écrire un texte dans la même journée en français et en néerlandais, parce qu'il y a des commandes aussi. Donc il y a cette particularité d'une part. Il y a aussi cette autre particularité, c'est qu'il est flamand et que toute son enfance, il a connu, et ça Xavier pour en parler, il a connu Gand, qui est en train de changer radicalement. C'est-à-dire que les canaux sont comblés, donc la ville change, perd un peu son côté médiéval et puis son côté aussi un peu pourrissant. Quoi. Enfin, donc ça veut dire que Saint-Germain l'a connu, Rodenbach. Et c'est pour ça que s'il y a ces influences-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a ces doubles influences chez Jean Rey au niveau belge, c'est qu'effectivement, il y a le naturalisme qui est très très fort, le naturalisme à la Camille Lemonnier, et avec une sexualité qui est chez Jean Rey, par contre, une sexualité rentrée, mais terriblement présente, quoi. Terriblement présente. Hein, Tête de Lune, si on revient sur Tête de Lune, il y a quand même ce côté, enfin, il s'est passé quoi avec cette gamine, quoi. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est très très fort. Donc on retrouve ce naturalisme, mais simplement, c'est qu'il y a un moment, pourquoi on retrouve le symbolisme, c'est que on ne peut pas dire. Enfin, on ne peut pas dire où il y a toujours ce secret qui va finalement arriver par d'autres moyens, par d'autres biais. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve les deux. Et la différence entre la Belgique et la France, d'un point de vue littéraire aussi, c'est que cette séparation qu'on avait en France entre les naturalismes et les symbolismes, à la fin du XIXe siècle, on ne l'a pas en Belgique. C'est-à-dire que Maeterlinck peut être publié dans la même revue que Camille Lemonnier. Donc on a tout de suite cette compréhension, en tout cas, que justement le naturalisme poussé à son extrême donne aussi des effets de fantastique. Et Frans Helens, qui écrit un peu plus tôt, hein, donc qui écrit sur Gand aussi, avec des peintres aussi qui montrent tout ce qui est les clartés latentes. Enfin, les réalités de fantastique de Frans Helens, c'est 1910. Il commence avec Les Hurlevents. Donc Les Hurlevents, c'est véritablement c'est du genre en moins fort, on va dire, parce qu'il y a la différence entre genre et Frans Helens, c'est que Frans Helens, lui, fait ça en tant qu'écrivain, avec une écriture à un seul niveau. Et Jean Rey ajoute cette dimension qui est de dire on va jouer en même temps de ce côté argotique, d'aller plus loin que ce qu'a fait Frans Helens. Mais il y a une connexion qui est aussi très très forte, et s'il y a cet aspect belge, c'est de ce côté-là plutôt. Le surréalisme, il ne peut pas le rencontrer parce que ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas la même optique. Et de toute façon, il ne pouvait pas rencontrer... En 1925, il y a quelques surréalistes qui s'intéressent à lui. Il est publié dans une revue, Évasion.
C'est un an après l'apparition du premier manifeste du surréalisme.
Ouais, c'est ça,
donc Évasion, Évasion, donc des revues avant-gardistes, en tout cas belges, font l'éloge des contes du whisky. Parce que justement, il y a ce côté. Ouais. Mais après, bon, ça s'arrête parce qu'il y a cette coupure dont on a pu parler. Et après, il n'a jamais l'occasion, parce que ce n'est pas un écrivain suffisamment important, il n'a jamais l'occasion de côtoyer finalement tout ce qui va être le milieu surréaliste gantois, qui n'a pas les mêmes objectifs, et Bruxelles, il est déjà à l'écart de ce milieu.
Il y a quelque chose aussi de surprenant. Il y a deux langues d'écriture. Clairement, Jean Rey avait une ambition littéraire, qu'il a poursuivie toute sa vie, et le fait qu'il a énormément travaillé ses textes en témoigne. Quelque chose de surprenant, c'est que généralement, si on veut se faire un nom, il vaut mieux en avoir qu'un seul, alors qu'il a travaillé quand même avec une quantité incroyable de pseudonymes. Certains textes ont même été repris en sautant d'un pseudonyme à un autre lors des rééditions. Pourquoi un tel choix ?
Alors déjà, parfois, c'est simplement...
Déjà, rappeler que Jean Rey, c'est un pseudo.
Ouais, Jean Rey, c'est un pseudo.
Déjà, hein. Oui.
Effectivement. C'est Raymond Jean-Marie de Crémeur, et voilà, Jean Rey est son premier pseudo. Et il utilise aussi d'autres pseudos à l'époque, John F. Rappelez les circonstances. Donc, il utilise à peu près 200 pseudonymes. Mais dans la revue Bravo, qui était la revue qui va, en néerlandais, qui va publier la plupart des bandes dessinées, des bandes américaines, c'est là où il écrit presque tout. Donc il fait en même temps les scénarios de bande dessinée. Il en fait deux par revue. Il fait en même temps des romans feuilletons. Et il fait en même temps les contes. Donc c'est-à-dire qu'il fait les trois quarts de la revue à lui tout seul. Donc évidemment, il ne peut pas signer avec, si ça se voit. Donc à chaque fois, il est obligé d'utiliser quand même plusieurs pseudonymes. Et alors quand j'avais fait la liste des pseudonymes, c'était quand même assez amusant parce qu'il utilise, il y a un récit de baleine, je ne sais plus le texte, et puis alors il signe Harry D. Whale. Donc c'est à chaque fois, donc c'est si ça se passe en Espagne, c'est évidemment Mendoza. Il vaut mieux à chaque fois, il s'amuse aussi avec les pseudonymes. Donc là, il y a un jeu qui est un jeu un peu difficile à suivre, un peu difficile à assumer, lui, parce que c'est simplement pour vivre. Donc il y a les circonstances éditoriales qui font qu'il est obligé d'utiliser des pseudonymes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que actuellement, ce que j'essaie vraiment ce que nous essayons de séparer, je crois que le numéro. Il y a un numéro de Bifrost aussi, prévu bientôt sur Genré. C'est que pour moi, en dehors des pseudonymes, il y a bien une écriture, ce que j'appelle une écriture genrée. Donc les textes ambitieux, les textes qu'il a voulu porter par ce nom-là, enfin par ce nom. Donc, c'est-à-dire que pour lui, la réussite littéraire, ça sera obligatoirement avec le nom genré. Celui qui était associé au Comte du Whisky. Enfin, son rêve, c'est toujours de revenir un peu à ce succès foudroyant des Comtes du Whisky. Quand même, au bout de 3 mois, il a un article dans la NRF. Donc pour lui, il a réussi presque avec les Comtes du Whisky. Et finalement, c'est la prison qui vient de couper ça. Donc tous ces textes ambitieux sont genrés. Les autres textes sont des textes, encore une fois, alimentaires, qui ne sont pas dénués d'intérêt, mais qui sont à chaque fois adressés, enfin qui s'adressent à un public bien précis. Quand on lui demande d'écrire pour la presse catholique, évidemment, il sait que c'est pour la presse catholique. Donc ce n'est pas un récit qui peut être pour lui ambitieux, littéraire, libéré de toute contrainte ou de toute obédience. Donc il y a une écriture de John Flanders qui est encore une fois de cette capacité de s'adapter à tout l'électorat. Et ça, c'est très fort aussi. C'est pour ça qu'il arrive à écrire finalement 6500 textes. Mais il y a bien, pour moi, il y a genré, d'une part, ce qu'on doit faire sous le nom de genré, ouais. Et d'autre part, tout ce qui est les 200 pseudonymes, mais qui ne sont pas simplement un jeu de pseudonymes, qui sont aussi une écriture à contrainte. Enfin, une écriture véritablement avec des contraintes éditoriales à respecter, et je réponds à ces contraintes. Ça l'empêche pas, encore une fois, d'écrire en même temps pour des catholiques, pour des socialistes à la Belge. Hein. Ces socialistes à la Belge ne sont pas les mêmes que chez nous. À l'époque, en tout cas. Mais donc, à chaque fois, c'est vraiment les commandes qu'on lui fait. Et c'est un écrivain qui doit vivre de sa plume.
Est-ce qu'il y aurait quelques questions?
Ah. Allô? Ah oui, oh, ça marche.
Oui.
À Arnaud Huftier, justement, vous parliez, vous disiez que certains jours, il composait un texte en français et un texte en néerlandais. J'ai eu l'impression que c'était la même histoire en français et en néerlandais. Est-ce qu'il y avait une... Est-ce qu'en gros, il traduisait, il prenait une première version qui traduisait, ou est-ce qu'il réinventait complètement, c'était le conteur
Ah non, il réinventait. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, encore une fois, 6500 textes, quand il y a vraiment cet échec de la croisière des ombres en 1932, quand 2 ans après il est obligé de vivre de sa plume, et tout le monde à Gand sait que Genré a fait de la prison. Donc c'est-à-dire qu'on le paye 3 fois moins que les autres. Donc il est obligé d'écrire 3 fois plus. Et on parle toujours de la productivité de Simenon. Simenon écrit effectivement énormément, mais il écrit des romans. Tandis que Genré, il y a un moment, j'ai quand même...
Qu'ils vendent dans le monde entier.
1937-38, il écrit à peu près 500 textes par an. Donc il écrit 500 textes par an, mais 500 textes qui ne sont pas du tout du même cadre. C'est-à-dire qu'il est obligé d'écrire dans la journée un article de journal, une nouvelle pour la jeunesse en néerlandais. Il continue à Harry Dixon parce que c'est les années où il y en a quand même 2 par mois. Donc il écrit 2 Harry Dixon par mois. Il écrit en même temps les Vlaamsche Filmkunst et il essaie aussi d'écrire ses nouvelles ambitieuses. Donc c'est-à-dire qu'il n'a même pas le temps de se traduire parce que ça prend plus de temps finalement de se traduire que d'inventer. Donc ce qui est très très fort aussi d'un point de vue de cette inventivité, cette créativité, c'est de passer dans la même journée, de dire j'ai 2 heures pour écrire une nouvelle pour la jeunesse, je sais que c'est pour la jeunesse. J'ai 1 heure pour écrire un article pour le bien public, je sais que je vais écrire sur le Gand la fin du siècle. Et il se traduit uniquement, il s'est traduit lui-même, mais dans les années 50-60. Mais principalement des textes pour la jeunesse, et quand il se traduit lui-même, si on compare les textes, il vient de relire le texte. Hein. Donc il ne se traduit pas du tout mot à mot. Hein. Donc il relit le texte, il se dit tiens, l'histoire est pas mal, hop, je le réécris, et donc ça n'a pas grand-chose à voir. Quoi.
Oui, parce que c'est ce que je pensais, s'il réinvente, en fonction de la langue, il ne va pas s'exprimer pareil, et finalement l'histoire sera la même, mais l'expression peut être complètement différente.
C'est ça, ces textes pour la jeunesse, c'est principalement ces textes-là qu'il traduit lui-même, il s'auto-traduit, sont tout à fait différents, au niveau du style... Et donc là, c'est intéressant à voir pour le spécialiste, justement, comment cette écriture change. Ces textes majeurs, on va dire les textes genrés, il en traduit quelques-uns du néerlandais. D'Andorre, hein, qui était d'abord écrit en néerlandais, il le traduit lui-même. Et donc là, on voit véritablement, quand je parlais du style de Jean Rey, quand on compare par contre la traduction, enfin la version originale néerlandaise et la traduction réalisée par Jean Rey, on voit cette écriture particulière au niveau français. On ne retrouve pas obligatoirement le même style en néerlandais que le style en français.
Bien, on va devoir s'arrêter, parce qu'il est l'heure. Merci beaucoup à vous tous.